Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Céline Bourdevert-Vessière. Elle est enseignante et autrice. Mère de deux enfants, elle partage ses découvertes, expériences et réflexions en matière d'accompagnement respectueux de l'enfant, que ce soit sur son compte Instagram Céline S'éveiller ou sur son blog et compte Facebook S'éveiller et s'épanouir de manière raisonnée. Ses livres traitent de différents sujets, que ce soit la parentalité, l'éducation non genrée, les violences faites aux enfants, le respect du consentement, ou encore l'écologie. À titre personnel, le travail de Céline m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup apporté dans ma parentalité, dans certaines réflexions aussi sur des sujets sociétaux, citoyens, et c'est avec beaucoup de plaisir que je la reçois pour vous parler d'un sujet important, qui est celui du cheminement. Qu'est-ce que cheminer ? Dans quel piège peut-on tomber lorsqu'on commence à vouloir s'intéresser à un sujet, à vouloir le creuser, à vouloir le développer, et à vouloir se fixer des objectifs ou des idéaux ? Eh bien, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions, ou du moins, de vous apporter le fruit de nos réflexions en direct et ensemble. Ma première question sera donc, qu'est-ce que le cheminement ? Je vous souhaite une très bonne écoute.
Pour répondre à ta question, le cheminement, pour moi, c'est tout simplement un chemin. C'est-à-dire qu'on part d'un lieu pour arriver à un autre lieu. Cet autre lieu, il est fait d'objectifs, il est fait d'idéaux, et on va aller tendre vers cela. Alors, c'est intéressant, en fait, de parler de cheminement pour la simple et bonne raison que moi, je ne me suis pas perdue en chemin, mais j'ai eu trop tendance, dans ma parentalité, dans ma vie, à me focaliser sur la destination, à garder cette destination comme seule finalité, sans avoir forcément pris conscience au départ que finalement, peut-être que ce n'était pas la destination qui était le plus important, mais en réalité le chemin que l'on allait emprunter, la vitesse à laquelle on allait emprunter ce chemin, la route qu'on allait prendre, que parfois si on faisait du surplace ou si on était dans un rond-point ou alors un petit demi-tour ou prendre une petite départementale au lieu d'autoroute, c'était pas dramatique. Donc en fait le cheminement sont ces deux choses-là, c'est-à-dire avoir cet idéal, cet objectif final et aller vers celui-là.
Donc si je comprends bien, le cheminement, c'est vraiment de vouloir atteindre un objectif de valeur ou d'idéal, comme tu dis, qu'on s'est fixé par rapport à des objectifs personnels, à des valeurs sociales, culturelles.
Alors c'est avoir en fait une liste d'idéaux, oui, mais sans forcément... les atteindre à tout prix. Je vais prendre l'exemple du zéro déchet, par exemple. Le zéro déchet, c'est un idéal. Je veux limiter mes déchets, mon impact sur l'environnement. Mais en fait, personne n'est zéro déchet à 100%. Donc cet idéal, il est là, oui. Je veux tendre vers cet idéal, mais j'ai conscience que, quoi qu'il arrive, je ne l'atteindrai pas à 100%. Donc en fait, dans ce cheminement, il faut, à mon sens, bien comprendre que cette destination finale, c'est un idéal, mais on sait que quoi qu'il arrive, on ne l'atteindra pas complètement.
Mmh. Et c'est important de garder à l'esprit, parce que c'est quoi le risque, en fait, quand on oublie ça et qu'on veut vraiment être dans la perfection absolue ?
Baisser les bras. Parce que la tâche est beaucoup trop importante, parce que c'est épuisant, parce que les autres ne nous suivent pas, parce que aller à contre-courant, quoi qu'il arrive, c'est épuisant. Moi, je vais prendre un exemple, puisqu'on était là sur le zéro déchet, l'écologie. Il y a une fois, dans mon évolution là-dessus, avec mon mari, on s'est dit, du jour au lendemain, nous n'irons plus au supermarché. Mais du jour au lendemain. c'était la meilleure solution, enfin, pour se planter, en fait. Parce qu'il aurait fallu y aller plus en douceur et peut-être mettre un peu plus de nuances. C'est-à-dire qu'on peut quand même, de temps en temps, aller au supermarché acheter des petites choses qu'on ne va pas trouver ailleurs. Et en fait, c'était beaucoup trop, pas extrémiste, quoique si, on pourrait employer ce terme-là. C'était quelque chose qui était beaucoup trop difficile à mettre en place et pas réaliste.
Tu soulèves un point qui est important pour moi, surtout en tant qu'accompagnant de l'humain et ancien manager, c'est comment est-ce qu'on se fixe des objectifs. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, il y a une méthode qui s'appelle la méthode SMART. Et donc, c'est se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, accessibles et réalisables dans un temps donné. Et donc, j'insiste sur cette façon de se fixer des objectifs parce qu'en effet, se dire que tout à coup, on ne va plus aller au supermarché alors que potentiellement, en plus, on n'a même pas réfléchi, je suppose, à certaines denrées qu'on ne sait pas comment remplacer, ça peut être extrêmement frustrant, quoi.
Oui, c'est ça. Après, quand on est sur ce chemin, on n'a pas forcément toujours conscience de ce qui est réalisable ou pas. Et puis, les autres personnes peuvent aussi influer, enfin nous influencer positivement, mais peuvent aussi nous faire croire qu'un idéal est atteignable, or il ne l'est pas. C'est quelque chose que tu as traité déjà dans ton podcast sur notamment les réseaux sociaux. Et cet effet écran où on voit tout un tas de personnes qui s'en sortent merveilleusement bien et sur le zéro déchet et sur la parentalité et sur la liaison vie pro, vie perso, enfin tout un tas de trucs. Et en fait, on pense que tout le monde s'en sort bien, en tout cas bien mieux que nous, que eux y arrivent. Et en fait, on se méprend totalement, on se fourvoie sur cet idéal. Mon idéal n'est pas forcément l'idéal de quelqu'un d'autre.
Complètement. Et puis même si ça l'était, je vais reprendre une phrase que je dis souvent, c'est pas parce qu'on va aller au même endroit qu'on est obligé de prendre le même chemin. Et j'ai même tendance à dire que ça arrive pas, quoi. Tu soulèves un point qui est super, super intéressant sur justement la vision des idéaux. C'est vrai qu'on a traité du sujet concernant la parentalité avec Aurélia il y a peu. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens aussi sur d'autres causes comme parce que tu es engagé sur beaucoup de sujets quand même? Pour n'en citer que trois, il y a la parentalité et les violences éducatives ordinaires. Il y a aussi le féminisme et il y a aussi l'écologie. Ce sont les trois grands thèmes sur lesquels moi je te retrouve. Comment est-ce que toi, sur ces deux autres sujets que sont le féminisme et l'écologie, tu trouves aussi des comptes comme ça qui vendent, qui vendent de la perfection?
Alors, en fait, je pense que vraiment, on va trouver cet idéal de perfection beaucoup plus sur les comptes de parentalité. Sur les personnes qui vont partager en termes d'écologie et de sexisme, féminisme, je trouve qu'au contraire, on est quand même la plupart du temps beaucoup plus mesuré par rapport au fait que l'on fasse cette distinction entre théorie et pratique. Et en fait, dans l'écologie et dans les comptes féministes, je trouve que vraiment, on est quand même plus ancré dans le réel. Après, c'est un avis personnel.
Est-ce que tu penses qu'il serait juste de dire que c'est peut-être parce que culturellement, finalement, la parentalité, et j'ai même tendance à dire en priorité la maternité, finalement, on n'a pas trop le droit de s'en plaindre ou de se dire que c'est difficile?
C'est quelque chose qui revient régulièrement. Une phrase que certains disent à des mamans en disant « t'as pas le droit de te plaindre parce que tu l'as voulu, en fait, cet enfant ». Comme si vouloir un enfant, accueillir un enfant, faisait que, après, on ne pouvait pas être fatigué, être en burn-out, être complètement épuisé parce qu'on n'a pas pris assez de temps pour soi. Et en fait, effectivement, ces mères, elles pensent qu'elles ne peuvent pas se plaindre. Donc, évidemment, elles vont intérioriser tout cela, il n'y a rien qui va sortir. Donc forcément qu'à un moment donné, quand vous enveloppez des émotions désagréables dans une cocotte minute, quand elles ressortent, c'est forcément puissance 10 000. Donc c'est effectivement très compliqué. Il y a cette notion de comparaison, il y a aussi la notion de culpabilisation à outrance. Et puis, pour en revenir, il y a toujours cet idéal aussi Il n'y a personne qui va vous dire, moi, je veux être une mauvaise mère pour mon enfant. Poser la question à des gens. Tout le monde veut, enfin tout le monde, je sais pas, mais enfin, j'imagine que tout le monde veut être une bonne mère ou un bon parent et veut le meilleur pour son enfant. Alors après, évidemment, on va prendre des chemins différents, mais moi je sais que la mère que j'étais il y a 8 ans n'est pas du tout la même maman que je suis aujourd'hui. Mais si on m'avait dit il y a 8 ans, tu évolueras comme ça, ou il faut que tu évolues comme ça, eh bien je ne l'aurais pas fait, parce qu'en fait il fallait absolument que je fasse ce cheminement moi-même. C'était en fait ce sont les enseignements que l'on va tirer au quotidien qui font qu'on se construit dans notre maternité, dans notre parentalité, dans notre humanité aussi.
Là, on touche à un autre sujet qui est important selon moi pour cheminement et qui est malheureusement bien souvent oublié et qui est pourtant un sujet essentiel dans l'accompagnement de l'humain. C'est que là, on a parlé de l'idéal et de ce qu'on peut viser. Mais pourquoi est-ce que c'est important de bien prendre en considération l'endroit d'où on part ?
Bah, c'est important parce qu'on part pas tous du même endroit. Alors là, si on prend en compte, si on prend par exemple le cas des violences éducatives ordinaires, certains ou certaines ont connu ces violences éducatives dans leur enfance. Puissance 1000. Certains ont connu des violences qui étaient que psychologiques. Certains ont connu des violences psychologiques et physiques. Et puis certains n'ont pas connu ces violences éducatives au sein du foyer, hein, j'entends, parce que on sait très bien que la violence éducative est une violence systémique, donc elle est sociétale. Donc là, je parle évidemment au sein du foyer, donc on ne part pas tous du même point. Donc forcément qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas à égalité là-dessus. Et puis le cheminement, il va prendre aussi plus ou moins de temps selon ce qu'on va être capable de remettre en question, parce que s'engager sur une éducation dite non violente, c'est aussi remettre en question toute la lignée, c'est remettre en question l'éducation de nos propres parents et avant eux leurs propres parents, etc. C'est aussi accepter que nos propres enfants un jour remettront sans doute en question notre propre éducation. Moi, j'ai mis quelques années, je pense, à accepter ça, parce que je remettais en question, entre guillemets, l'éducation de mes parents, sans leur en vouloir. Ça, je leur ai dit plusieurs fois. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les ressources qu'ils avaient à cette époque-là, hein, dans les années 80.
Comme nous, quoi.
Oui, voilà, comme nous. J'ai dû accepter moi-même que... Et je l'espère, en fait, même maintenant, que mes enfants me reprocheront des choses, parce que ça voudra dire que la société, elle a évolué vers toujours plus de respect entre les humains, entre les adultes et les enfants.
Bah écoute, je l'espère aussi. C'est vrai que moi, tu vois, sur le sujet des violences dites éducatives ordinaires, on reste sur des questionnements après qui poussent toujours plus loin. C'est ça qui est des fois vertigineux, je trouve. Et c'est là où j'aime beaucoup le fait que tu évoquais la possibilité de faire une pause éventuellement sur le chemin. Parce que tu vois, par exemple, sur le sujet des violences éducatives ordinaires, moi, j'ai une réflexion toute bête qui m'est venue, c'est si punir les enfants, ça sert à rien. Ça sert à quoi de punir les adultes ? Tu vois ? Et là, tu arrives sur une réflexion sociétale qui est autre. Et sur, moi, je vois ça comme un embranchement sur le chemin. Et cet embranchement, tu vois, pour le moment, je choisis de le regarder un petit peu, mais de patrouiller, parce que ça demande de l'énergie aussi. Ce sont des choses qui t'arrivent à toi aussi dans tes cheminements ?
De remettre en question tout un tas de choses qui sont finalement banalisées. C'est ça ta question ? Oui, oui. En fait, oui, ça, évidemment, ça, je pense que ça nous arrive à tous. Après, il y a plusieurs réactions possibles. Soit on a l'illumination et on va vers ce sujet-là et on le traite, on lit, on se documente, on regarde des vidéos et on veut vraiment avoir une réponse tout de suite. Soit, deuxième chose, ça peut demander beaucoup d'efforts, parce que ça peut faire mal, parce que ça doit aussi prendre du temps à être digéré. Et donc ça, en général, c'est quand même moi ce qui m'arrive le plus souvent. Hein, il me faut du temps pour pouvoir bien digérer les choses, bien faire en sorte que les liaisons se fassent à l'intérieur de ma cervelle. Et puis il y a peut-être aussi une troisième stratégie qui est celle du déni, en fait. C'est-à-dire que c'est trop lourd, là, à porter, à comprendre. Donc je fais comme si ça n'existait pas. Alors j'imagine que j'ai dû faire des dénis sur certains sujets. Là, je ne saurais te dire lesquels. Mais je pense qu'en fait, on a voilà, ces trois stratégies possibles qui arrivent quand on aborde des sujets qui sont sur des éléments tellement banalisés qu'on ne les voit pas, ou qu'on ne les voit plus.
Et tu parlais aussi du demi-tour sur le chemin. Ça, c'est un exemple qui me tient particulièrement à cœur. Donc, tu nous parlais du supermarché l'exemple du supermarché avec le zéro déchet. Mais c'est vrai que, est-ce que, pour certaines personnes, et dont je fais partie, c'est pas aussi tout à fait acceptable. Enfin, ça l'est. Mais est-ce que, je tiens à en parler parce que je veux aussi déculpabiliser les gens, ça peut être aussi une façon d'évoluer que de vouloir partir un petit peu comme un ayatollah sur un sujet et puis de se rendre compte que ah, c'est pas possible, donc de chuter, de se sentir en situation d'échec, et finalement de rebrousser un peu le chemin et de se dire « Attends, ok, à quel endroit est-ce que finalement je peux réussir à réaliser ça ou ça ?»
Alors ce que tu soulignes là, c'est à mon sens un thème fondamental. En parentalité par exemple, ou sur les violences éducatives ordinaires, parce que il y a cet effet qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, qui veut que quand on s'intéresse à un sujet, on a l'impression, au début, bah, voilà, on sait qu'on ne sait pas, après on va se documenter, donc on a l'impression qu'on sait tout. Et alors là, c'est le moment où on veut que tout le monde sache tout le savoir qu'on peut avoir. Et puis après, en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et en parentalité, je pense qu'il y a un effet Dunning-Kruger qui est hyper important. C'est-à-dire qu'on va vouloir accueillir un enfant, ou alors peut-être que l'enfant est déjà là, et on tombe sur, on commence à goûter cette marmite de soupe, d'éducation dite positive, accompagnement plus respectueux de l'enfant. Et on se dit, ah ouais, quand même, c'est génial, puisqu'on va respecter tout le monde. Et puis, moi, je raconte ça parce qu'il y a 8 ans, sur les réseaux sociaux, c'était vraiment ça. C'était, allez, il faut vraiment pas apporter la bonne parole. Enfin, c'était pas du tout religieux, mais il fallait diffuser au maximum, quitte à tomber parfois dans un extrême, c'est-à-dire en fait à classer violence éducative quasiment tout. Et puis, et après, je pense que il y a beaucoup de personnes qui se sont ravisées et qui ont mis un peu plus d'eau dans leur vin, entre guillemets, hein, pour pouvoir avoir une parole un peu plus mesurée et prendre plus en compte l'adulte, les possibles burn-out maternels ou parentaux, enfin bref, voilà. Donc il faut vraiment prendre en compte ça, hein, l'idée que quand on se lance dans ces sujets-là, oui, on veut savoir, oui, on se documente, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et une fois qu'on a compris qu'en fait, plus on avance, plus on sait, et plus on sait ce qu'on ne sait pas, je pense qu'on a compris l'essentiel.
Oui, en effet. Il y a aussi ce crash test avec la réalité, je trouve, des fois, parce que, comme tu dis, dans l'effet de Dunning-Kruger, il y a surtout une appropriation des connaissances théoriques. Et puis, tout à coup, on va les confronter à la réalité et on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. Et que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer, mais c'est juste que c'est pas aussi simple que ça. Et généralement, c'est une claque qu'on peut prendre dans les dents. Tu parles... Alors, nous enregistrons cet épisode le 30 avril 2021, la journée pour la non-violence éducative. Et donc, tu évoques le sujet des VO. Je voudrais faire un petit aparté sur le sujet, pour le coup, en profiter. Classer quasiment tout en VO, ça, c'est un sujet qui sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un petit peu. parce que, en effet, moi, à titre personnel, quand j'ai découvert un sujet,
Je me suis renseigné, j'ai lu, il y a des choses qui m'ont, ou que j'ai trouvées évidentes, il y a des choses que moi-même j'ai trouvées très complexes, notamment une certaine liste. Alors j'entends que on a une vraie difficulté en France, c'est qu'on parle des VO, elles sont dans la loi, mais contrairement à d'autres violences, elles sont pas classifiées par gravité, par type, par typologie. Donc c'est problématique. Et pour le coup, c'est un petit peu les parents, enfin les gens sur les réseaux qui ont pris le sujet. Quels exemples tu aurais de VO qui seraient compliqués à éviter dans la société telle qu'elle est aujourd'hui en 2021, sachant que la loi n'a été votée qu'en 2019?
Alors déjà, pour revenir sur ce que tu as dit, effectivement, il y a une liste qui existe hein, sur un blog qui appartient donc à une association, qui est un groupe auquel j'ai participé à la fondation, mais que j'ai quitté depuis. Et en fait, je pense que c'est très bien qu'il n'y ait pas de liste dans la loi. Parce que quand on liste des choses, le risque, c'est quoi? C'est qu'on en oublie. Donc, une liste, elle est par définition souvent non exhaustive. Donc, je préfère à la limite qu'il n'y ait pas de liste dans la loi. Comme ça, on y met une interprétation qui peut être très subjective, je l'entends. Maintenant, les définitions des VEO, il y en a 50 000. Moi, je vais aller au plus simple, hein, c'est-à-dire qu'il y a violence éducative ordinaire quand il y a domination de l'adulte sur l'enfant. Donc après, c'est pareil, là tu vas me dire, bah, une fois que tu dis ça, tu n'as pas forcément répondu à ma question. Et donc après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on classe dans les VEO? Moi, j'ai souvent des messages, alors un peu moins maintenant, je trouve, mais apparemment, j'avais beaucoup de messages de personnes qui me disaient « Alors, il m'est arrivé ça, ou on a fait ça à mon enfant, est-ce que c'est VO ou pas ?» Mais c'est toujours difficile pour moi de répondre à cette question, parce que ça voudrait dire que y a des gens qui sont là pour dire « Alors oui, ça c'est VO, non, ça l'est pas. » Et puis des fois, j'ai l'impression qu'on va classer dans les violences éducatives des choses qui sont pas forcément à y être, en fait, à y rentrer. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui pourrait être une violence éducative et qui est difficile à bannir? Pour moi, tout ce qui relève de la santé et de la sécurité. Enfin, ça, je l'ai toujours dit à mes enfants depuis qu'ils sont tout bébés, et je le dis régulièrement sur les réseaux sociaux. Tout ce qui concerne la sécurité, c'est no way. Enfin, voilà, c'est comme ça, point. Que l'enfant ne donne pas son consentement pour s'attacher en voiture, tant pis. Enfin, à un moment donné, on fait fi de ce consentement parce que là, il y a une mise en danger possible, qui est une mise en danger physique. Et donc après, il y a tout ce qui concerne la santé et l'hygiène minimale. Hein, voilà. Donc ça, ce sont des choses qui sont parfois classées dans des violences éducatives ordinaires par certains, hein, selon le positionnement. Mais à mon avis, à mon sens, les bannir, ça serait tout aussi violent, voire plus.
Et nous ici, on a à la maison, on a trois limites en fait qui fixent le cadre. C'est santé, sécurité et respect d'autrui. Voilà. Ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire que si la limite est franchie, on va filer une gifle à l'enfant, quoi. C'est absolument pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'on va en effet se passer notamment du consentement. Je pense notamment au fameux lavage de nez, qui moi me fait. Enfin, maintenant ça va mieux. Ma fille a 2 ans et demi, ça y est, ça va mieux. Mais qui moi, dans les premières fois que j'ai dû le faire, m'a torturé, quoi. Je me sentais mal de voir mon enfant dans cet état-là, mais en même temps, je savais aussi que c'était pour sa santé. Et est-ce que tu penses qu'il pourrait être juste de dire que parfois, dans cette réflexion sur les VO, on peut être amené à confondre domination de l'adulte et responsabilité de l'adulte vis-à-vis de l'enfant?
Mais tout à fait. Là, dans l'exemple que tu cites, alors lavage de nez, mais ça peut être, oulala, attention, sujet touchy, la prise de médicaments, parce que ça a fait grand bruit aussi il y a quelques mois, voire années, je ne sais plus, sur les réseaux. Oui, on confond responsabilité, responsabilisation et puis...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Domination.
Domination.
Ok, non mais c'est, je pense que c'est important de le souligner parce que c'est pas parce qu'on doit considérer l'enfant comme une personne à part entière qu'on doit se dédouaner de ses devoirs et de ses responsabilités vis-à-vis de son chemin de vie parce qu'on en a quand même la responsabilité. Après, il y a des sujets, là, il y a d'autres sujets qui sont en effet plus à débattre philosophiquement parlant, comme la responsabilité de l'intégration sociale et donc du respect des codes sociaux. Enfin voilà, il y a des choses qui touchent pour le coup, encore une fois, au cheminement et à comment est-ce qu'on a cheminé sur notre perception des codes sociaux et l'effet que ça peut avoir sur nous. Voilà, je pense notamment au fait de se dire que des fois, quand on a choisi d'accompagner l'émotion de son enfant, qu'on est en plein supermarché et qu'il y a plein de gens qui nous regardent d'un air clairement de dire non mais colle-lui-en une et arrête, c'est vrai que là on est sur un choix qui est différent quoi.
Oui, on est sur un choix qui est différent, mais moi c'est ça qui me porte aussi. En fait, c'est quand je vois les réactions extérieures, là tu parles du magasin, mais ça peut être sur les réseaux ou dans la rue, enfin sur la place publique. Quand on voit la réaction des gens, on se dit qu'il y a du travail, qu'il y a une marge d'amélioration qui est quand même pas négligeable, et donc il y a un défi à relever. Et ça, ce défi à relever, c'est notre génération de parents qui le porte en fait. Alors je suis pas en train de dire qu'on est des précurseurs, des avant-gardistes ou je ne sais quoi, mais c'est notre combat là pour que ça on tende vers du mieux sur les décennies qui vont suivre.
Alors tu soulèves un point qui est important et même essentiel selon moi. Bon, on est encore sur le sujet des VO, mais ça marche aussi sur d'autres sujets. Hein, je trouve notre génération de parents et de citoyens. Ça marche aussi sur d'autres sujets, notamment l'écologie et le sujet des violences faites aux femmes et des violences tout court par ailleurs. Moi j'ai un petit peu le sentiment des fois qu'on demande à notre génération de faire ce changement voilà, en une fois, il faut qu'on déblaye tout. Est-ce que c'est un sentiment que tu as déjà ressenti toi? Est-ce que c'est un sentiment que tu constates? Et qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors je suis pas du tout d'accord avec toi. Autant mm-hmm. sur des sujets... très particulier, on a vu des césures hein, dans l'histoire, autant par exemple sur la lutte pour les droits des femmes, on a en tête une certaine décennie, mais en fait on se rend compte que c'est autant les femmes du 18e que un petit peu celles du 19e, que un petit peu celles d'après-guerre, que un petit peu celles des années 60 et 70. Enfin bref, chacun en fait a contribué. Autant pour la lutte pour les droits de l'enfant, je pense que on a tous, je l'espère, en tête que de notre vivant, on ne verra pas un monde parfaitement égalitaire, sans domination adulte, sans adultes qui veulent obligatoirement contraindre l'enfant, forcer une obéissance à tout prix. Enfin moi en tout cas je l'ai complètement accepté que de mon vivant je le verrai pas, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « le jour où tu plantes la graine n'est pas le jour où tu manges le fruit ». Et en fait clairement quand on s'engage dans les non-violences éducatives, on sait que nos propres enfants vont à leur tour, sur les bases qu'on leur aura fournies, tenter de faire encore mieux que nous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et si eux-mêmes ont des enfants un jour, eh bien leurs propres enfants feront à leur tour, enfin tenteront, j'espère, de faire encore mieux. Et qu'il faudra 2, 3, 4 générations, enfin j'en sais rien, je suis pas devin, hein, j'ai pas de boule de cristal, pour qu'on aille toujours plus vers cet idéal de non-violence. Alors il y aura peut-être des périodes de retour en arrière, ça j'en sais rien, mais je pense que Enfin, moi, je ne ressens pas ce poids de me dire c'est notre génération qui doit porter ça. On est, oui, la génération qui pointe du doigt, enfin, qu'il y a une incohérence, en fait, qu'il y a cette domination adulte, cette oppression sur les enfants et qu'il faut absolument que ça cesse. Mais on est très conscient que ça ne se fera pas que par nous et avec nous.
Alors moi, je te rejoins là-dessus complètement. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai déjà dit, et que ce soit sur l'éducation sans violence, ou même sur les violences faites aux femmes, ou même sur l'écologie, je pense pas que je verrai de mon vivant tout ça. Mais je suis content que tu dises tout ça, tu vois, parce que des fois, dans certains groupes de discussion sur les sujets, et là, je parle de pas que sur les VO, hein, mais sur d'autres sujets militants, j'ai vraiment la... Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a cette pression à devoir justement tout faire. Voilà, sur notre génération, c'est maintenant, et puis il faut être parfait. Et voilà, donc j'espère que les propos que tu as tenus vont pouvoir aussi permettre aux gens de se rendre compte que non, on peut pas être en droit d'attendre par ailleurs de cette génération ou des autres des choses qui sont d'ailleurs jamais produites dans l'histoire. Et ne pas oublier non plus, faut pas non plus se croire plus haut que ce que l'on est, qu'en effet, comme tu l'as très justement rappelé, il y a déjà eu des choses dans l'histoire qui sont passées sur plein de sujets, et que des fois on a entendu parler, des fois pas, ou des fois, c'est pas dans les livres d'histoire. Petite aparté. La question suivante que je voudrais te poser, c'est, et toi, Soline, comment t'as fait pour te dire, comment ça s'est déclenché le cheminement sur les différents sujets, quoi.
Donc mon cheminement, il a commencé tout simplement pendant ma première grossesse. Donc, c'était il y a 9 ans. Moi, tout simplement, je suis issue d'une famille où il y avait une éducation que j'appelle traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai subi des violences éducatives qui étaient faites par mes parents dans le but, sous couvert de bonnes intentions. C'était pour mon bien, pour m'amener à un avenir meilleur. Et je n'avais jamais remis en question cela. Dans mon enfance, je n'avais pas du tout remis en question ça. Et même en tant que jeune adulte, quand j'étais à l'université, je pouvais tout à fait prononcer des phrases comme « Bon, ça va, une claque, hein, ça n'a jamais tué personne. » J'ai prononcé ces phrases, vraiment. Et puis donc, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et là, pendant ma grossesse, ça a été très très difficile pour moi. Parce que, en fait, je ne sais pas comment c'est venu, d'où c'est venu, enfin, bref, et je ne cherche pas non plus à savoir, mais la nuit, je faisais d'atroces cauchemars. J'avais des hallucinations, mais vraiment, c'était quelque chose de très fort et très puissant. J'avais les yeux ouverts et je voyais des choses, des hallucinations, et en fait, il y avait des phrases qui me revenaient à ce moment-là, des phrases qu'on m'avait prononcées, qu'on m'avait dites quand j'étais enfant. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça, c'était violent, et j'avais jamais. Fait le lien. Pour moi, ça, c'était pas violent, c'était juste ce que j'avais connu. C'est ce qu'on appelle donc une banalisation de la violence. C'était mon quotidien. Et donc, en ayant pris conscience que, en fait, c'était violent et que c'était pas du tout ce que je voulais pour l'enfant qui allait arriver, eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à comment faire autrement. Et donc, j'ai lu une autrice, hein, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup les écrits d'Isabelle Filioza, par exemple, hein, qui circulaient. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de productions littéraires, d'essais. Donc, j'ai lu, et puis voilà, après, hein, j'ai fait mon cheminement en m'aidant de lecture, en m'aidant de discussion sur les réseaux, avec des amis, enfin bref, et puis moi-même, ma petite cervelle et mon expérience. Donc ça, c'est sur la prise de conscience pour les violences éducatives. L'écologie, bon, c'est quelque chose qui a, j'allais pas dire toujours, été mis en place à la maison, mais mon mari était quand même a toujours été quelqu'un de très, très, très porté sur cette question. Donc on mettait en place des petits aménagements. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, il m'a dit... si on prenait des couches lavables, donc moi j'ai commencé à paniquer, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il me dit en fait, enfin, des couches lavables, non mais non, personne fait ça. aujourd'hui c'est quelque chose qui est devenu plus courant, mais il y a 9 ans en fait c'était quelque chose qui n'était pas très courant du tout. Et donc, je dis, ouais, ok. Alors, je me suis renseignée, ok. Et puis, on a essayé petit à petit d'éveiller nos enfants à la nature. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très. Voilà, c'est très linéaire, une progression qui s'est faite en douceur. C'était d'ailleurs la thématique du départ hein, du blog. Quand j'ai ouvert mon blog, c'était en tout début 2014, j'évoquais essentiellement cette question de l'éveil à la nature des enfants. Et puis, pour ce qui concerne la lutte antisexiste, alors là, j'ai envie de dire que c'est quand même plus récent. Donner une délimitation, savoir s'il y a eu un déclic, je saurais te dire vraiment. Je pense que c'est vraiment en fait en lisant au fur et à mesure sur les réseaux, je pense hein, vraiment plus qu'ailleurs, et surtout en fait en étant confrontée à ma propre réalité, j'ai pris une claque au sens figuré évidemment. Quand on faisait une liste de Noël pour ma fille, je crois, pour ses 2 ans. Elle avait 2 ans. Et elle avait demandé un kit pour de médecine. Donc, je regarde sur Internet parce que je voulais des vrais outils. En fait, je ne voulais pas qu'elle ait des jouets en plastique. Je me dis, tant qu'à avoir un stéthoscope ou un otoscope, autant prendre quelque chose de véritable. Et donc, je tombe sur des kits, bref, sur Internet. Et je lui montre et je lui dis, tu veux lequel? Tu veux le violet ou le rose? Enfin, je ne sais plus, ou le rouge. Enfin, bref. Et là, elle me regarde avec des yeux interloqués, l'air de dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et elle me dit, mais je veux le bleu. Enfin, genre logique, quoi. Et là, je me suis pris une claque parce que je me suis dit, je pensais être avancée sur ces questions. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, enfin, j'avance un peu. Mais en fait, je suis pas déconstruite. Hein, j'aime pas tellement ce terme de déconstruction hein, qu'on entend partout. Mais je me dis, en fait, j'ai des automatismes qui me reviennent. C'est un truc de dingue. Et donc là, j'ai vraiment beaucoup plus fait attention, peut-être à partir de ce moment-là, à ce que je pouvais dire, à ce que je pouvais faire. Mais je n'ai pas d'objectif complètement. Irréalisable, enfin, c'est ce que je dis hein, notamment dans mon dernier essai hein, sur les filles et les garçons pour une éducation non genrée, c'est que on n'est pas tout seul. À un moment donné aussi, il faut qu'on se rende compte que qu'on soit engagé contre les violences éducatives ordinaires, qu'on soit engagé contre les violences sexistes, qu'on soit engagé pour l'écologie environnementale, hein, l'écologie extérieure. Eh bien, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on n'est pas tout seul et que tout ne tient pas dans la maison, dans le foyer. Ça permet aussi de déculpabiliser un petit peu. C'est-à-dire que quand ton garçon aime le foot et que ta fille aime les licornes et la danse, même si tu as tenté de tendre vers une éducation antisexiste, c'est comme ça. C'est pas un échec, c'est tout, c'est comme ça, point. Et parce que, il y a eu l'influence de certains écrans, l'influence de certaines pubs, l'influence de l'école, des copains, du terrain de jeu, du City Stade, enfin bref, j'en sais rien. Et voilà, je pense qu'il faut aussi, tout se mesure.
Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même un moment où ce sont des réflexions finalement qu'on a un petit peu chacun, toutes et tous, en nous. Et c'est vrai que par moment, des fois dans la vie, il y a des moments qui sont un petit peu de déclic où on va se dire, tiens, mais est-ce que j'irai pas plus loin? Est-ce que je ferai pas plus? Et c'est justement là qu'on peut se dire qu'on était déjà sur un chemin, mais qu'on va s'en rendre compte. On va peut-être essayer d'accélérer le rythme. Et qu'il va falloir gérer cette accélération du rythme.
Oui, et ça fait partie vraiment, pour le coup, du cheminement. C'est-à-dire que ces petites expériences ou ces petites claques qu'on se prend dans les expériences quotidiennes, ça fait partie du cheminement. C'est-à-dire que ça nous fait amener à un point. Enfin, moi, je vais prendre un autre exemple. Hein. Tu couperas si je raconte trop ma vie. Un exemple personnel, quand ma fille, donc ma cadette, était bébé, donc elle se réveillait beaucoup la nuit, enfin, normal, hein, comme, comme un enfant, un jeune enfant. Et en fait, des fois, je me réveillais, je me levais, j'étais à bout, vraiment complètement épuisée. Et j'ai eu des pensées comme pourquoi je t'ai mise au monde en fait, pourquoi je t'ai faite, pourquoi j'ai décidé d'avoir un deuxième enfant, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, j'en peux plus, je voulais la prendre et l'acheter contre le mur, j'avais des pensées qui étaient hyper, hyper violentes. Et en fait, il a fallu aussi que je passe par ça pour pouvoir comprendre que la violence, la lutte contre les violences éducatives, la bienveillance, c'était bien joli de prendre en compte l'enfant, mais qu'en fait, il ne fallait pas que je m'oublie, moi aussi, en tant que parent. Et si ça, c'était un discours qu'on m'avait tenu pendant ma grossesse, bah, j'aurais dit « ouais, ouais, ok, t'as raison ». Mais ça aurait coulé comme l'eau sur les ailes d'un oiseau. Là, pour le coup, il fallait en passer par là. Donc, de temps en temps, je pense qu'il y a des expériences qui sont aussi à vivre, qui ne sont pas forcément toujours des expériences agréables, mais qui permettent de faire son propre cheminement. Alors, je ne suis pas en train de dire du tout ce qui ne te tue pas te rend fort, etc. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument qu'on passe par des expériences négatives. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nous construit quand même et ça participe de notre cheminement.
Bah, moi, ce que j'entends, c'est surtout que ce qui, en France, beaucoup pourrait être appelé et vécu comme un échec, est en fait une étape d'apprentissage. C'est souvent quelque chose qu'on oublie et qui est culturellement en France compliqué vis-à-vis. Le rapport à l'échec est quand même très, très complexe. Et comme le disait Nelson Mandela, moi, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et moi, ce que j'entends, c'est que voilà, il y a eu un moment très difficile vis-à-vis de ton second enfant, mais qui était nécessaire pour justement prendre du recul, peut-être se dire, tiens, attends, je ne sais pas dans quelle réflexion tu étais à ce moment-là sur ta parentalité, mais peut-être qu'il y avait un trop, peut-être qu'il y avait quelque chose, et c'est vrai que c'est une étape importante, et surtout quand on voit comment c'est transformé, puisque derrière, toi, tu as publié un essai qui s'appelle « Être mère sans s'oublier », voilà, donc c'est, moi, je trouve ça intéressant que derrière, on transforme une expérience en moyen de communication et potentiellement d'aider d'autres parents. Je crois aussi que tu as fait un épisode sur le sujet avec Élise dans le podcast Élise Prenons un Café, que je salue en passant. Je trouve ça très intéressant d'avoir toutes ces infos-là. Et puis, il y a une autre question qui sera peut-être la dernière, mais il y a une autre question que je vais te poser, c'est comment tu fais ? Parce que on a parlé tout à l'heure de la vision qu'on peut avoir sur les réseaux, de tout ça. Et c'est vrai que moi, tu vois, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué vraiment en discussion privée, mais c'est vraiment une question que je me pose quand je regarde ton compte, quand je regarde ton activité, parce que tu es aussi professeur quand même à côté. Je me dis, mais comment elle fait, Soline, quand est-ce qu'elle dort ?
Je dors la nuit, comme tout le monde, ou presque. Alors ça, c'est une question qui m'est posée. Alors, plusieurs fois par semaine, enfin, c'est assez hallucinant. Je ne sais pas pourquoi pourquoi les gens se posent cette question. Parce que peut-être que l'image qui est renvoyée, c'est celle de je fais beaucoup de choses. Oui, je fais beaucoup de choses, mais j'ai envie de dire comme tout le monde. Sauf que ce que moi je fais, ce sont des choses qui se voient. Je m'explique. Par exemple, je ne regarde pas la télévision et je ne regarde pas des séries. Alors, quand quelqu'un va regarder la dernière saison de je ne sais quelle série à la mode, j'y connais rien, donc je ne peux pas vous donner d'exemple, moi, pendant ce temps-là, je vais écrire 50 pages d'un livre. Donc, en fait, il y a peut-être ça, la première chose, c'est que quand je fais des choses, ce sont des choses visibles. Donc, il y a un effet écran. Et la deuxième chose aussi, ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, c'est en ayant appris des choses sur moi, c'est que je suis quelqu'un de très efficace. Je suis productive et très efficace, c'est-à-dire que je peux aller très vite. Je peux lire un livre en une soirée. Donc, ce sont des choses qui font partie de mes particularités et qui peuvent aussi expliquer cela. Mais j'insiste sur le fait que je ne suis pas... En fait, non, on est plusieurs. Ouais, je terminerai là-dessus, mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas se comparer. Je ne sais pas quand les gens se posent la question, si c'est en fait une comparaison, à se dire, mais comment elle fait en fait ? Moi, je n'y arrive pas. Parce qu'il ne faut pas se comparer, je pense que c'est... On a tous nos ressources propres, notre potentiel propre, et après, nos occupations propres, nos envies militantes propres, enfin bref, très individuelles.
Mais je pense que c'est un sujet intéressant, en effet, que tu pointes, parce que de dire que ce que tu fais, on le voit, quoi. Parce que moi, par exemple, c'est vrai que quand je regarde une série ou quand je joue à la console, personne ne le voit. Et pourtant, je peux y passer du temps.
Ben oui.
Et c'est vrai que moi, le message que je voudrais passer, c'est que c'est pas parce que Soline, par exemple, elle va faire des productions qui vont se voir et que moi, je vais jouer à la console. C'est pas parce qu'on fait des choses différentes qui se voient pas que l'un de nous vaut mieux, vaut plus que l'autre.
C'est
voilà, ça c'est quelque chose qu'on puisse dire et que chacun est suffisant, quoi. Chacun est suffisant et qu'en effet, se comparer, ça sert à rien. Vous êtes suffisant pour vous et pour vos enfants. Et si vous avez l'impression que c'est pas le cas, bah écoutez, c'est un nouveau chemin à prendre, donc et une nouvelle réflexion à mener.
Et très importante réflexion à mener.
Oui. Pour finir sur cet épisode et sur ce sujet, Soline, est-ce que toi, tu aurais un message que tu voudrais passer aux gens qui nous écoutent, voilà, sur ce sujet du cheminement ? Pas forcément que sur la parentalité, mais voilà, sur tout ce qu'on a pu se dire, si tu as des astuces ou tout simplement j'aime pas le mot conseil, mais si tu as des astuces ou des retours d'expérience à donner sur le sujet, ça serait quoi le dernier mot pour toi ?
Le dernier mot, ça serait de ne laisser jamais personne vous faire croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisant, que ce que vous faites ou êtes n'est pas assez bien, parce que c'est pas vrai, d'une part. Et si jamais vous le croyez ou vous le pensez, eh bien, n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes, soit virtuellement, soit dans la vie réelle, qui pourront vous aider et vous montrer que vous êtes une priorité, que vous êtes important et c'est se respecter soi-même, tout simplement.
Pas mieux. Pas mieux. Merci beaucoup, Soline.
Merci à toi.
Et je te souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.